aujourd'hui pour vous adresser quelques mots que j'espère donner exclusivement par son esprit qui est en moi, non pas moi, mais lui. Et je suis reconnaissant à Michel qui nous permet à nous aussi de donner ce que nous avons reçu dans cet enseignement sur le roi David. Je vais commencer ma première partie avec David le jeune berger et sa foi en Dieu. David est le dernier d'une fratrie de 8 enfants qui gardait juste les brebis de son père avec amour, attention, parce qu'on y vient là tout à l'heure. Il s'en occupait vraiment, au point même d'attaquer les animaux sauvages qui viennent s'en prendre à ses brebis. C'était plutôt extraordinaire pour moi. Pourtant, il était méprisé et ignoré par ses parents. Même son propre père n'a pas cru devoir le présenter à Samuel comme candidat à la succession de Saül. Son père, voulant prendre des nouvelles de ses frères, parce que tous les frères sont sur le champ de bataille, ils sont enrôlés dans l'armée d'Israël, sous l'ordre de Saül, bien sûr. Son père, voulant prendre des nouvelles de ses frères qui étaient tous au front, va commissionner David en 1 Samuel 17, 17 et 18. Écoutons ce que dit la parole. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles fraîches. » Adolescent, David n'avait pas encore l'âge d'aller en guerre. Mais ce n'est pas l'envie qui lui en manquait. Dès qu'il a déposé les ravitaillements, il a couru vers les rangs au fond, tandis qu'au verset 24, pardon, on ne va pas le lire, les Israélites, toute l'armée, fuyaient devant Goliath qui sortait un peu dans les rangs pour les provoquer, pour les insulter, pour prononcer des paroles de malédiction, ça et là. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient sur le champ de bataille, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu, du Dieu vivant. » Il est osé, hein ? Et je disais tout à l'heure que ses frères le méprisaient. Il est jeune, il sera même dit enfant. Et au verset 28, David dit à Saül, ton serviteur, les propos que David vient de prononcer tout à l'heure sont remontés à Saül. Et Saül va l'écouter. Justement, il fait venir. Qu'est-ce qui se passe ici entre le verset 28 et 37? Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles, justement, je disais, ces paroles ont été rapportées à David. Et à Saül, pardon. Saül va lui donner son équipement, comment on appelle ça, tout son équipement pour se présenter devant Goliath. Mais David va se débarrasser, il va refuser de porter tout ça, il va s'en débarrasser, il ne va pas pouvoir utiliser, bien sûr, c'est pas son affaire. On va voir comment est-ce que David va se préparer. C'est dit entre les versets 40 et 46, on ne va pas le lire. Il prit son bâton de berger, il choisit dans le torrent 5 pierres polies qu'il met dans sa gilet et dans sa poche, et la fronde à la main, il va avancer. Sur le front, le Philistin va avancer vers David en le méprisant, ne voyant en lui qu'un enfant. Il le maudit par ses dieux, les dieux philistins. David lui répondit au verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est justement ce que David vient de proclamer, qui s'est passé, comme vous connaissez déjà le texte. Il fallait que l'ennemi Goliath entende la proclamation de David. David lui a parlé avec autorité, mais d'où lui vient cette autorité? Il connaissait la parole de Dieu. Il savait en qui il se reposait. Il a dit à plusieurs reprises, notre adversaire, quel qu'il soit, doit entendre notre proclamation. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire avec autorité, avec l'autorité que nous avons. Jésus parlait ainsi, vous vous souvenez, au point que certains se demandaient, mais ce n'est pas le fils de Joseph, le fils du charpentier, etc. De même, les apôtres ont fait pareil après Jésus. David, au fait, n'a pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons quelque chose de particulier. On va voir un peu ce que nous pouvons, avec quoi nous pouvons marcher aujourd'hui. David marchait avec son Dieu. Il était tout le temps, tout pour lui. Dieu était tout pour lui. Nous avons Dieu, mais d'une autre manière, nous, aujourd'hui. Jésus disait à ses disciples, avant d'aller au ciel, peu avant sa mort, il a dit, je vais le paraphraser un peu d'abord, je m'en vais au Père, mais comme j'étais avec vous, quand j'étais avec vous, je pourvoyais à tous vos besoins, je vous guérissais, je vous faisais tout, mais là maintenant, je m'en vais. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui fera exactement comme moi et même davantage parce qu'il me glorifia. Voilà ce qu'il a dit en Jean 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et puis il va le confirmer juste avant son ascension dans Matthieu, Matthieu 28, au verset 20, mais avant, au verset 19, il leur disait, allez et faites des disciples de toutes les nations. Et il ajoute au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà comment Jésus annonçait ce qui va arriver après. Il annonçait l'administration de la grâce. Il annonçait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous aujourd'hui. Comment? Sommes-nous conscients de cela? Combien d'entre nous se reposent sur le Saint-Esprit qui est en nous, en sachant que Jésus a dit que c'est une puissance, en lui parlant, en lui demandant de nous accompagner lorsque nous allons vers une situation difficile. David n'avait pas tout ça avant de foncer en toute confiance en son Dieu, en proclamant la grandeur de Dieu avec lequel il fonctionne et toute la puissance sur laquelle il s'appuie. Nous, en Colossiens 2, verset 15, nous avons reçu cette autorité d'une manière bien précise. Je lis les versets 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, voilà, Jésus a soumis, nous a soumis toutes les autorités, toutes les autorités, toutes les dominations. Nous avons quelque chose de particulier en nous. Le Christ en nous, c'est une puissance qui nous met au-dessus. Ensuite, nous savons qui plus est que nous sommes positionnés en haut dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Plus que David, nous pouvons affronter, nous devrions affronter nos Goliaths de la vie, avec détermination, nous appuyant justement sur cette confiance dans le Christ en nous. Une telle confiance en Dieu ne vient pas soudainement, bien entendu, mais se développe progressivement par la pratique de la parole. Ne dit-on pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça se développe aussi dans la prière, dans l'adoration, dans la marche en esprit, justement. L'esprit qui est en nous nous permet de marcher en esprit. Dieu n'attend pas que nous ayons un certain âge pour nous confier quoi que ce soit. Il est maître du temps. Il décide quand le moment est venu, mais il prépare petit à petit. Comme disait Édouard dimanche dernier, il ajuste les circonstances, les temps et les lieux. C'est lui qui fait le timing pour réaliser sa volonté. Ne nous laissons pas intimider par le mépris de notre entourage, de notre famille, à l'école, le travail. Mais confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu et laissons-nous diriger vers des personnes que Dieu nous indique parfois, qu'on appelle des mentors, et restons éveillés spirituellement. David était au pâturage dans son troupeau quand Samuel fut invité par Dieu à aller l'oindre pour comme roi. Cela ne lui est probablement jamais monté à l'esprit. ce qu'il savait, c'est que Dieu est aux commandes et que lui, il n'a rien à faire d'autre que de se confier en Dieu. Ça s'appelle la foi. Il avait une foi ferme en Dieu. Nous allons aborder dans ma deuxième partie un aspect un peu moins glorieux de David. Il s'agit d'un moment où David était persécuté par son propre fils, Absalom. Et celui-ci va s'associer à un conseiller de David du nom d'Achitophel. Nous allons voir comment tous les deux se sont égarés. Sur le conseil de Joab, une femme de Tekoa avait été envoyée vers David pour obtenir le retour d'Absalom qui avait pris la fuite après le meurtre de son frère Amnon. Michel nous a montré la finesse de la ruse qu'ils ont utilisée tous les deux, Joab et la femme. Mais Absalom, de retour, n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'en vouloir au trône de son père et à sa vie même. Peut-être parce qu'il lui a fait en quelque sorte ce que nous appellerons aujourd'hui une assignation à domicile quand il est arrivé, en lui faisant dire de se retirer dans sa maison et de ne pas paraître devant sa face. Oui, c'est difficile de trouver les causes profondes pour lesquelles Absalom ira jusqu'à vouloir attenter à la vie de son père, mais il y a quand même ces quelques indices ayant été retiré dans son domicile. Bien sûr, les choses vont se tramer dans son cœur. En 2 Samuel 14, au verset 33, on verra que Absalom n'a pas hésité à utiliser, parce qu'il aurait, il aurait voulu se présenter devant le roi lui-même et dire au roi pourquoi il est revenu de Geshur. En 2 Samuel 14, au verset 33, après avoir fait violence sur Joab, Absalom a réussi à obtenir que Joab aille voir le roi pour l'idée qu'il voulait le rencontrer. C'est ce qui est décrit en 2 Samuel 14, verset 33. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. C'est tout. On n'a pas plus d'informations que ça. Juste après ça, ça va commencer l'engrenage maintenant à partir du chapitre 15. Peut-être David, son attitude de laisser aller les choses quand il s'agit de ses enfants, le poursuivait encore dans cette situation. Au chapitre 15, verset 7, il est dit, au bout de 40 ans, Absalom était déjà sur place, mais est-ce qu'il voyait son père? Certainement, parce qu'il a déjà, à bout de 2 ans, ça s'est déjà dénoué. Mais il a attendu 40 ans pour venir voir son père maintenant. Et il dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, juste, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Il n'a pas dit comment il allait servir Dieu. David ne le lui avait pas demandé non plus. Il n'avait rien vu venir. Il lui a même accordé sa bénédiction. Absalom va aller se trouver un associé en ce conseiller de David. C'est dit en 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. David a dû s'enfuir en pleurant avec toute sa famille et il va tenter de montrer une stratégie de contre-attaque. Il va envoyer quelques-uns de ses fidèles dans les rangs d'Absalom pour s'informer de temps en temps de ce qui se passe du côté d'Absalom. C'est tout ce qu'il a pu faire. Et les gens ont rapporté à David plus tard, un peu plus tard, en 2 Samuel 15, verset 31, on vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » C'est tout. Mais dans sa fuite, on va voir un aspect assez humiliant de David, de la vie de David. C'est une période vraiment où il a été éprouvé réellement. Mais il va garder une attitude que nous allons voir tout à l'heure. David se fera humilier par un membre de la famille de Saül. Et en 2 Samuel 16, versets 5 à 8, il est dit, « David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi, en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » David n'a pas réagi, mais l'un de ses serviteurs a voulu aller couper la tête. David lui dit, « Pas question, ne le fais pas. Il se peut, s'il est venu maudire, il se peut que ce soit Dieu qui lui demande. » C'est curieux. David ne veut pas juste interférer dans les plans de Dieu. Il ne veut pas non plus agir, disons, dans le camp du diable. On se souvient en Luc 9, ce que Jésus a dit à ses disciples. C'était à Jean et Simon-Pierre, bien sûr, qui lui ont demandé à Jésus, « Veux-tu que nous commandons au feu de Dieu, nous faisons descendre le feu de Dieu pour détruire une contrée qui avait refusé, en fait, que Jésus aille, qu'ils y aillent évangéliser. » Peut-être la foi absolue de David qui fait que pour lui, Dieu est aux commandes de toutes les situations, de toutes les nations. Et David n'avait aucune crainte, bien qu'il soit en souffrance, en difficulté. Il sait que Dieu fait ses sentences, Dieu répond aux situations selon sa volonté, son cœur. Mais David semblait avoir été semblait avoir accepté, si vous voulez, son échec d'avoir laissé les choses se passer jusqu'au viol de Tamar, au meurtre d'Amon. Du coup, il accepte volontiers d'être châtié par Dieu. Retournons au texte d'Absalom, qui poursuivait son forfait en 2 Samuel, au verset 16 à 20. David était arrivé jusqu'à... Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ?» Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » Wow. On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Quel conseil! Et Achitophel est devenu si influent auprès d'Absalom que sa parole était prise comme parole de Dieu. Ce conseiller va encore demander à Absalom de le laisser aller lui-même, d'ailleurs, surprendre le roi et le tuer dans son repos. Mais Absalom, un peu perdu dans tout son projet macabre, il va chercher la confirmation du Shaï, un autre conseiller de David, que David a envoyé en sixième colonne dans ses rangs. Ce dernier lui donnera un conseil autre, dont il enverra tout de suite le contenu à David par Achimath et Jonathan, qui sont deux fils des sacrificateurs, Sadoc et Abiathar. Faisons attention vraiment à ce point. J'ai pris ce passage juste pour montrer que nous devons nous faire attention aux conseils que nous prodiguons aux jeunes dont nous avons la charge ou dont nous sommes proches. Ne leur conseillons jamais de se rebeller contre leur père ou contre une autorité établie. Ne leur conseillons jamais de la désobéissance, car la désobéissance, comme dit la parole, est une divination, est pire qu'une divination. Mais cherchons toujours à les aider à rétablir le lien qui est fragilisé par une circonstance ou une autre dans sa famille. Savez-vous ce qui est arrivé à Achitophel? Eh bien, il s'est suicidé. La sentence était déjà là, en fait. Attention à cela. Ensuite, et à Absalom, le fils bien-aimé de David. Il fut pendu par les térébintes entrelacées, par ses cheveux. Souvenez-vous, il y avait une description qui avait été donnée minutieuse sur les cheveux de Absalom par la Bible. Il se pourrait qu'il y ait un objet d'idolâtrie par là, et Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Absalom avait déplacé les bornes, dirons-nous. Apparemment, même le mulet sur lequel il était a contribué à sa mort. Puis il a été tué plus tard par Joab, achevé par ses soldats, malgré la demande de David de l'épargner. Pour moi, c'est que Dieu avait déjà jugé, tout simplement. Il aurait eu le temps. Nous avons appris dans la maison d'Élie, sachant que nous sommes appelés à honorer nos pères, nos parents. Lorsqu'on déshonore, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement chercher la repentance, s'arrêter. Il aurait pu s'arrêter entre-temps et se repentir que sa vie peut-être n'y passera pas. Je viens maintenant à ma troisième partie où on va remonter un peu plus de cette situation de déprime de David. C'est David l'adorateur. J'ai écrit « Je réveillerai l'aurore ». C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé dans la vie de David. David écrit toujours un cantique, un chant d'adoration et de louange à son Dieu dans toutes les situations, quels que soient les moments d'émerveillement, d'émerveillement devant Dieu, ou des moments de persécution ou de tribulation diverses. Toutes les circonstances pour lui sont sous le contrôle de Dieu Et il va se confier en Dieu, il va le louer. Ce que Hélène a commenté tout à l'heure, c'est un peu ça. Dans la souffrance, il faut avoir justement cette possibilité d'aller vers Dieu, ce qui n'est pas évident. David, lui, adore continuellement Dieu qui est tout pour lui. Il a l'intime conviction que sans Dieu, il ne peut rien faire. Jésus nous l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Combien d'entre nous sont absolument convaincus de cela? C'est ça. Dans le premier psaume de David, on voit un peu déjà comment il s'attache à son Dieu, comment il médite la parole. C'est dit au chapitre 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia, c'est merveilleux. Si vous lisez la suite au verset 4, c'est « Il n'en est pas ainsi du méchant. » Donc David savait qu'il fallait, voilà ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il faut faire. Sa foi vient certainement de ses méditations, de la parole, de son attachement afin de la mettre en pratique continuellement. Et c'est là où il a compris certainement la puissance de l'adoration qui le menait chaque jour devant la face de l'Éternel. Il avait un zèle à le faire qu'il pouvait dire qu'il irait jusqu'à réveiller l'aurore. Lisons-le dans le psaume 57, versets 2 à 9. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveillez-vous, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Après s'être confié en Dieu son refuge, il relate tous les dangers qu'il a dû connaître ça et là. Et il termine par « Je réveillerai l'aurore ». Cette expression m'a beaucoup frappé. Dans plusieurs versions, c'est bien lui qui veut réveiller l'aurore. Donc l'aurore devient une personne que lui, il va réveiller. Dans la version anglaise de King James, par contre, c'est la seule version où j'ai vu, il est écrit « I myself will awake early ». Sous le contrôle de Julie, je traduis « Moi, je me réveillerai de bonne heure ». Donc c'est lui qui se réveille. Mais en fait, il voulait devancer l'aurore, comme il est écrit dans le psaume 119 au verset 147. Il est écrit « Je t'invoque, je vais commencer au verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. » Puis il personnifie, entend ses instruments. Il va les réveiller aussi. Il voulait rentrer très tôt dans la louange et dans l'adoration de Dieu. Il fit pareil dans plusieurs psaumes, le psaume 108, on va voir ça plus tard. Il utilise pour moi un euphémisme que je dirais inversé Pourquoi? Parce qu'un euphémisme, c'est une expression atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de choquant ou de déplaisant. Mais lui, il utilise l'expression volontairement, une expression choquante, pour exprimer sa détermination, son engagement à louer et adorer son Dieu de tout son cœur avant le lever du jour. Il réveillerait l'aurore s'il peut. Je n'en fais pas une doctrine, mais quand je me réveille toujours très tôt le matin, je me sens vraiment tout seul avec Dieu. Je n'ai aucun bruit autour de moi et je prends le temps de remercier le Saint-Esprit de m'avoir réveillé là. Je le remercie pour sa présence, puis je commence à l'adorer en esprit. Ensuite, des louanges. Bien, autour de 6 heures, parce que je me suis réveillé à 5 heures, autour de 6 heures, je commence par entendre les bruits des premières voitures, des travailleurs qui se dépêchent d'aller prendre leur autoroute, parce que l'autoroute n'est pas très loin de chez moi. Donc, ce n'est plus le temps de l'adoration, parce que je ne suis pas, comme Jésus le dit, dans ma chambre, la porte fermée et seul à seul avec lui. Donc, je sors de ça, je commence par peut-être lire la Bible, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, on va voir plus tard, à la suite encore, c'est quelque chose de merveilleux à faire. Jésus lui-même le faisait en Marc 1, au verset 35, verset 35 à 39. C'est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il était allé donc pour prier. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Jésus leur répondit tout juste, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Je suis sorti pour prier, pour préparer notre passage à une autre bourgade. Et il alla prêcher dans la synagogue, etc. Oui, c'était le bon moment pour recevoir les paroles rhéma, comme nous dirons, les paroles rhéma du Père, dont il avait besoin pour couvrir justement toute la journée dans cette direction-là où il voulait les amener. Je ne peux pas mieux exprimer la grandeur et la magnificence de Dieu comme David le fait. Mais j'aimerais bien, dans ma louange, mon adoration, oui, c'est vrai, Dieu est grand. Et il va le dire encore dans le psaume 33, versets 1 à 6. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ouais. C'est à cela, ce type d'adoration que nous sommes appelés avec la puissance de Christ en nous. Au psaume 108, il va réveiller encore l'aurore. Versets 1 à 3, au psaume 108, il disait, mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. L'Éternel, je te chanterai parmi les nations. Ouais, se réveiller tôt, il y a un principe spirituel derrière. Accrochez-vous, je vais vous parler d'un autre continent. En Afrique, on sait que les méchants, les sorciers, agissent et le résultat apparaît le jour. Se lever dès l'aurore et se confier à Jésus permet d'annuler tous leurs desseins et d'établir celui de Dieu. C'est écrit dans la Bible, on va l'aborder tout à l'heure, mais je vais vous raconter une petite histoire. C'est que quand nous étions ici, ma femme et moi, on s'est mariés, on avait les deux premiers enfants, 4 ans et 1 an. Mais avant ça, déjà avec le premier, écoutez, je n'osais pas aller en vacances chez moi. Tout simplement parce que quand on y va, étant donné que tu viens de loin, tous les regards sont sur toi, et pardon, et les gens méchants, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais j'ai connu la parole de Dieu à un an de ma vie, justement, en 91, et quand j'ai vu ce qui s'est passé le jour où j'ai reçu le Seigneur, je me dis, mon Dieu est beaucoup plus grand que tout ça, alors j'y vais, c'est là que je suis parti. Et une autre histoire parallèle à celle-ci, c'est ma belle-sœur qui était dans une maison, une grande maison dans laquelle c'est des maisons de location que les gens font souvent. Donc il y a plusieurs appartements. Et elle n'en savait rien, elle était avec sa fille. Sa fille aînée à l'époque d'ailleurs, qui devait avoir que 4 à 5 ans. La nuit, la fille crie tout le temps. Elle hurle, elle a peur, elle crie, elle pleure. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui lui avons permis de rencontrer le Seigneur. Et elle savait qu'elle a une puissance en elle. Une nuit, la fille a commencé par hurler encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa fille, elle l'a mise dans ses bras et s'est mise à parler en langue. Elle dit, elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle s'est endormie. En tout cas, toutes les deux se sont endormies paisiblement jusqu'au matin. Et au réveil, quand elles sont sorties, il y a la dame qui vient à la porte. Pardon, c'est moi. C'est fini, je l'ai déjà laissé. Je l'ai déjà laissé. C'est authentique, c'est ma belle-sœur. Donc, la puissance que nous avons à nous, le parler en langue, la prière en esprit est une puissance. Donc, nous pouvons porter ça dans nos cœurs et avancer. Le travail, l'adoration matinale, c'est pour nous. C'est pour nous édifier, c'est pour nous préparer justement à affronter la journée. C'est là que nous pouvons recevoir tout ce qui peut se passer de la journée, de la part de Dieu. Dans Michée 2, versets 1 à 2, c'est dit, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. » C'est souvent sur leur couche, la nuit, que ces esprits fonctionnent, que les gens pensent toutes les mauvaises choses. Au point du jour, ils exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage, etc. Tout ça, c'est l'œuvre des ténèbres qu'ils accomplissent le jour. Le diable se délecte, il se réjouit de voir que nous n'avons pas prié avant d'aller à l'école, par exemple, avant d'aller au travail ou à toute autre affaire que nous avons à mener dans la journée. C'est pourquoi au psaume 33, David dit aussi, Éternel, aie pitié, non plutôt en Ésaïe. Ésaïe 33, 2, après Michée, Ésaïe aussi l'a dit, peut-être que je ne l'ai pas mis. L'Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. On prend tout ce que Dieu veut nous donner, veut nous révéler dès le matin et au temps de la détresse dans la journée, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous avons eu ou déjà même Dieu a déjà tout réglé. C'est ça la puissance de la prière matinale. Quand nous prenons quelque temps le matin, dès le réveil, pour remercier pour la vie qui nous a renouvelés, proclamer sa grandeur, sa magnificence et sa beauté, toute sa création, Dieu répond en anéantissant tout ce que le diable a préparé cette nuit pour la journée. Donc, je disais tout à l'heure, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est le bon moment pour aller se recueillir devant l'Éternel et proclamer la vie qu'il veut nous donner pour la journée. Amen. Je peux prier, Éternel Dieu, puisses-tu nous permettre à chacun de comprendre la grandeur de ce que tu as réalisé avec ton Fils Jésus. Le Saint-Esprit qui nous a envoyé est une puissance, comme tu l'as dit en nous, que rien ne peut ébranler. Lorsque nous allons, porteurs de cette puissance, nous pouvons affronter n'importe quel Goliath de notre vie, en proclamant la parole de vérité, eh bien toi, si c'était quelqu'un, nous lui disons tout simplement, nous, nous sommes des enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu et j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et avec cet esprit, je vais contre toi et nous pouvons régler nos situations en toute puissance avec toi. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.